Bonjour et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senali et pour cette saison 3, attachez vos ceintures. Je vous embarque dans ma DeLorean pour un retour vers le futur. En parallèle des nouveaux invités, je redonne le micro aux Amcamgrammeurs pour qu'ils me racontent l'évolution de leur métier depuis le passage sur le podcast. Vous êtes bien installés ? Alors c'est parti ! Salut Maxime, comment tu vas ?
Salut Darina, ça va et toi ?
Ouais, super. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu. Ça me fait plaisir de t'avoir à mes côtés une seconde fois sur Amcamgram.
Bah ouais, quasiment un an et quelle année ?
Ouais, pas n'importe quelle année, ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai, ça fait un an parce que j'avais démarré le podcast fin avril 2020 et toi, tu étais l'épisode numéro 4. Donc, autant te dire que tu as démarré en même temps que l'aventure Amcamgram, donc belle dédicace. Alors aujourd'hui, donc toi Maxime, tu reviens au micro pour nous parler de ton évolution de poste, puisque bah, lorsque tu étais passé la première fois, tu nous avais parlé du rôle de senior key account manager chez Brigade, et aujourd'hui c'est une super nouvelle, tu es passé head of operations, donc tu vas nous en parler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire, Maxime, quel est ton petit déjeuner idéal ?
C'est une bonne question. Alors, là, en ce moment, je vais faire un petit placement de produit pour mon ancienne boîte. Je carbure au lait végétaux d'Innocent. Ils ont sorti une petite gamme, le lait de noisette est top. Avec un peu de céréales, un verre de jus, un café. Et tu as tout ce qu'il faut pour attaquer ta journée derrière.
Et un verre de jus Innocent, j'imagine.
Forcément, je crois pas qu'il existe d'autres jus.
Ok, d'accord. Mais attends, mais moi, j'ai jamais testé les céréales avec d'autres laits que le lait de vache. Donc, il faudrait clairement que je m'y mette.
Bah, je te conseille cette expérience.
Bon, bah, écoute, top. Alors, on commence. Déjà, Maxime, bah ouais, comment tu te sens ? Enfin, moi, j'ai découvert ton évolution de poste sur LinkedIn et c'est hyper cool, quoi. Est-ce que tu peux nous en parler ? C'est quoi ton mood ?
Bah, très, très bon mood. Effectivement, c'est un gros challenge avant tout. Et ça a été un gros challenge sur la prise de poste parce que c'est un changement assez important en termes de poste, de mission, de responsabilité. Donc ça a été beaucoup de travail au début, les premiers mois surtout. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai été pas mal accompagné à la fois par la personne à laquelle j'ai succédé, mais aussi par les équipes qui étaient en place. Donc maintenant, on est bien en place, on est bien cadré et c'est top.
Donc on va dire... un peu de pression au départ, si je lis entre les lignes.
Un peu de pression, ouais. Pression perso aussi, parce que j'avais envie de prouver que la responsabilité qu'on me donnait, je pouvais la tenir. Et puis une pression aussi vis-à-vis de l'équipe avec laquelle j'avais travaillé, qui attend forcément d'avoir en face quelqu'un qui est prêt à répondre aux questions, aux attentes rapidement. Donc petit challenge. Plein de nouveautés aussi à apprendre rapidement et à maîtriser rapidement, des nouveaux outils également à apprendre à maîtriser. Donc, on croit bien connaître une boîte dans laquelle on est depuis longtemps. Et puis, en fait, on continue d'apprendre régulièrement. Donc, c'est top.
Ouais, c'est ça qui est stimulant. Et est-ce que tu peux me raconter comment s'est faite cette évolution entre senior key account manager et head of operations ?
Ouais, alors ça s'est fait, tu vois, l'année dernière ça a été une année assez charnière pour Brigade du fait de la crise sanitaire qu'on a dû traverser, mais ça nous a permis aussi de repenser notre modèle, notre organisation, notre stratégie. Ça faisait longtemps qu'on avait en tête de réunir une partie très business, je dirais, qui était le pôle qui est, dont j'étais en charge, avec l'expérience utilisateur globale. C'est ce projet-là en fait qu'on a poussé, qu'on a mis en place, et c'est comme ça que le pôle Ops s'est créé. En fait, ça a été la réunion de l'ensemble des équipes qui étaient en contact avec des utilisateurs. L'objectif derrière étant de venir optimiser, lisser nos process pour pouvoir évoluer et grandir rapidement. Et puis surtout de faire en sorte de se faire rencontrer le care, les équipes qui sont au contact des utilisateurs, et le business avec l'équipe plutôt CAM, CSM, pour en tirer le meilleur parti de ces deux équipes-là et les faire grandir en apportant un petit peu chacune à l'autre.
Du coup, vous avez, en fin de compte, pour faire rencontrer ces deux mondes, vous avez créé le poste de Ops et c'est toi qui t'es positionné.
Exactement, c'est ça. Qu'il a fallu
D'accord. Bon.
présenter aussi un peu le projet qui allait derrière, ma vision et ce que j'avais en tête pour ce pôle, et ça l'a fait, donc hyper positif.
Ok, bon bah écoute, trop trop bien. Tu vas rentrer dans les détails dans les prochaines minutes, à savoir bah, un peu le avant-après, puisque comme tu dis, c'est des challenges différents, des interlocuteurs différents, des outils différents. Donc je veux bien que tu me décrives ensuite tes nouvelles missions, tes défis sur l'année à venir. Et finalement, à la fin, on prendra un peu de recul pour que tu me dises quels sont les principaux apprentissages de cette transition et ce qu'on peut retenir. Ça te va?
Parfait.
Bon. Alors, est-ce que tu peux me résumer ton précédent poste de senior key account manager chez Brigade, plus dans le sens, tu vois, équipe, pour qu'après on voit le changement de paradigme?
Yes, alors sur ce pôle qui est, l'objectif du pôle était assez global, assez large. Ça allait de... closer des nouveaux groupes avec lesquels on allait travailler, jusqu'à accompagner les groupes avec lesquels on travaillait depuis longtemps. L'objectif étant d'avoir un rôle quasiment de consultant chez nos utilisateurs et plus de commercial finalement en interne pour pousser les projets de nos utilisateurs compte-clé et faire en sorte qu'on soit capable d'adapter nos process et notre produit pour y répondre au mieux.
Donc, on va dire que toi, tes interlocuteurs au quotidien, c'était des entreprises de la
Exactement.
restauration.
Exactement, des grands groupes de la restauration.
Et aujourd'hui, alors? Ouais, exactement. Et aujourd'hui, tu vas être davantage tourné vers quoi? Vers les équipes, si je comprends bien?
Ouais, aujourd'hui c'est assez différent. En fait, là on est sur un pôle où on va parler à l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. C'est ce qui change un petit peu la vision et le scope, c'est qu'il y a toujours ces interlocuteurs compte-clé avec qui mon équipe va être amenée à communiquer, à échanger, mais il y a en réalité l'ensemble de notre communauté avec qui on échange pour faire en sorte qu'ils aient la meilleure expérience possible de leur inscription jusqu'au moment où ils deviennent des utilisateurs récurrents, voire même qu'ils arrêtent d'utiliser la plateforme. L'idée, c'est vraiment d'avoir un accompagnement global et de faire en sorte que chacune des opportunités qui va se présenter à nous devienne un succès.
Et tu as toujours la même équipe qu'avant, non?
Non, du coup, l'équipe a changé parce qu'en fait, aujourd'hui, la manière dont c'est composé, il y a trois pôles qui sont en place, deux pôles et demi, on va dire. D'un côté, on va avoir le pôle Community Experience qui va accompagner la grande majorité de nos utilisateurs, que ce soit les brigadeurs ou les établissements, dans la gestion de leurs besoins. Mais aussi le pôle CSM et le pôle Key Excellence qui va là avoir pour rôle d'accompagner davantage des établissements, des comptes qu'on aura plutôt vus comme stratégiques. Et là, l'objectif, ça va être dans la continuité de ce qu'on faisait côté Key, de les accompagner plutôt dans un rôle un peu de consulting et de s'assurer qu'ils optimisent leurs utilisations de nos outils par rapport à leurs besoins.
Et finalement, tes indicateurs clés, ça va être quoi désormais?
Alors, il y en a plusieurs. L'un des indicateurs qu'on regarde aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle maintenant le taux de tension, c'est-à-dire notre capacité à répondre aux besoins qui nous sont présentés. Il va y avoir un indicateur de chiffre d'affaires, forcément. Ça reste la clé en dehors de tout ce qu'on peut faire. L'objectif, c'est de faire en sorte, comme je le disais tout à l'heure, que chaque opportunité soit un succès et donc que on réussisse à trouver à chaque fois le bon match entre les besoins et les offres qui sont présentes. Et en dernier indicateur, on va avoir la rétention de l'ensemble de nos utilisateurs, faire en sorte que tous ces utilisateurs, pardon, continuent de nous utiliser de façon récurrente et comprendre un petit peu quels sont leurs besoins pour savoir à quel moment ils vont avoir besoin de nous.
Ouais, vraiment te positionner de manière anticipée, si je comprends bien.
Exactement. L'objectif, en fait, de ce pôle-là, c'est pas nécessairement de vendre, même s'il y a un aspect commercial. C'est plus d'accompagner, de comprendre et d'optimiser les besoins des utilisateurs.
Mais du coup, si je me place du côté des utilisateurs, ils vont avoir combien de points de contact chez Brigade? Est-ce que ça fait pas, tu vois, un maillon supplémentaire pour eux?
Ça a été un des enjeux au moment de la mise en place du pôle, justement, et c'est une très bonne question. L'idée étant de ne pas multiplier les interlocuteurs et faire en sorte que la relation soit la plus claire possible. Alors, on n'a pas encore forcément la recette magique par rapport à ça et complètement trouvé notre modèle, mais on s'en rapproche. Là, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait un, deux interlocuteurs maximum enfin, au cours de de l'utilisation de la plateforme et des outils pour qu'il y ait toujours un même point de contact, ou en tout cas une même équipe en point de contact qui puisse répondre aux questions.
Et comment est-ce que tu vas savoir que voilà, tel client va avoir besoin comment dire, de recourir à Brigade? Enfin, comment est-ce que tu mets en place cet algorithme qu'on disait tout à l'heure pour anticiper les besoins de tes clients?
Ah, ça, c'est toute la magie de notre équipe. On travaille sur ce qu'on appelle le scoring business. En fait, c'est un outil qui nous permet, grâce à des échanges plutôt enfin, quali et quanti avec nos utilisateurs, de comprendre quels sont leurs besoins, de comprendre quelles sont les périodes clés liées à leurs besoins et de pouvoir avoir un travail de relance et de suivi adapté. En fait, typiquement, là, si on se concentre vraiment sur la partie plutôt utilisateur-établissement, l'objectif, c'est pas de contacter ces personnes-là tout le temps, c'est de les contacter au moment opportun par rapport à ce qu'on sait d'eux et ce qu'on a compris de leurs besoins.
Et j'imagine ce que tu sais aussi de la conjoncture, quoi. La reprise, pas la reprise.
Exactement, on est dépendant de ça, on est dépendant aussi de la structure des établissements, des périodes, des périodes de congés, des périodes estivales. Il y a des établissements pour qui l'été c'est une grosse période, et d'autres il n'y a pas de changement. Enfin, voilà, l'idée c'est vraiment d'aller gratter le plus dans le détail possible pour comprendre comment ça marche.
Donc, tu vas être en fait à la fois un spécialiste de ton marché, de ton secteur et du produit au sens SaaS.
Exactement. Et en fait, ce qui permet à l'équipe Ops d'être hyper optimisée par rapport à ça, c'est qu'on est en contact pas uniquement avec les utilisateurs côté établissement, mais on est aussi en contact avec les personnes qui travaillent, les indépendants qui travaillent via Brigade. Et donc, ça nous permet de hyper bien connaître l'ensemble de notre communauté et de mieux comprendre, interpréter leurs besoins, et d'être capable d'apporter la meilleure réponse et d'avoir la plateforme qui répond le mieux aux attentes.
Et aujourd'hui, en termes de communication avec ces différents interlocuteurs, alors à la fois B2B et les indépendants, on va dire, qui sont les brigadeurs, si je ne me trompe pas, est-ce que tu vas utiliser des moyens de communication de masse, par exemple je sais pas, des newsletters, des envois segmentés en fin de compte?
Alors, ces éléments-là de communication de masse, ils sont plutôt traités par l'équipe marketing. Tout ce qui est, typiquement l'exemple que tu citais, la partie newsletter, ça va être géré directement par les équipes marketing qui sont en charge du contact, même si j'aime pas trop ce terme, de masse, parler à l'ensemble de la communauté. Quand on a des messages plus précis à communiquer auprès d'une communauté ciblée, là, c'est mon équipe qui prend le relais en fonction des interlocuteurs. Et qui va contacter par téléphone, par mail, ou aussi échanger en direct on utilise Zendesk notamment pour gérer toutes les requêtes qui peuvent être faites à travers la plateforme.
Ok, ouais, très clair. Et alors, si je mets un peu en perspective tes deux rôles, en quoi le fait d'avoir été senior CAM est selon toi un atout, pardon, aujourd'hui?
Je pense que ce qui joue pas mal dans ce que je fais aujourd'hui, ce qui a un intérêt, c'est le fait de bosser avec les grands comptes te permet d'avoir une compréhension un peu plus peut-être globale des enjeux, dans le sens où le rôle de CAM, c'est un rôle dans lequel tu es en contact avec toutes les équipes finalement d'une boîte. Tu vois, moi, dans le rôle que j'avais avant, je travaillais aussi bien avec l'équipe Ops aujourd'hui, mais dans le format dans lequel elle était à l'époque, que avec les équipes market, avec les équipes produits. En fait, vraiment, l'objectif que j'avais dans ce rôle de CAM, c'était de gérer une petite boîte. En fait, le portefeuille que j'avais, c'était un mini brigade que j'avais à gérer avec tous les outils à disposition de brigade. Et donc, au final, ce nouveau rôle, c'est un rôle plus global. Là, c'est plus uniquement pour mon portefeuille, c'est pour l'ensemble des utilisateurs. Mais cette compréhension des enjeux, des outils et des process que j'ai pu avoir grâce à mon rôle précédent me permettent de mieux comprendre ce que je fais aujourd'hui et de proposer des choses qui vont nous permettre d'avancer.
Et quand tu proposes une nouveauté, comment tu fais pour t'assurer qu'elle est bien implémentée ?
Ça, c'est vraiment un enjeu hyper clé. C'est la compréhension. Il y a aussi un peu de politique du changement. Et c'est marrant, je l'ai découvert assez récemment. Pour moi, c'était quelque chose qui touchait plutôt les grands groupes. Tu sais, on parle souvent d'accompagner les équipes sur des nouveaux outils et on a en tête... des personnes qui sont dans un grand groupe depuis très longtemps et qui ont un petit peu de mal avec la digitalisation, avec les nouveaux outils. Et en fait, ça existe aussi dans l'univers startup et tech. Donc, y a énormément d'accompagnement, faire en sorte que les messages soient compris, se placer aussi à la place de son équipe, comprendre les questions qui peuvent être posées, les frustrations, et donner beaucoup de visibilité sur... à quoi ça va servir ? Pourquoi on met en place ce process ? Pourquoi on met en place cet outil ? Comment est-ce que demain, ça va changer la donne pour l'équipe et pour la communauté ? Et donc, c'est hyper important de vraiment pas juste être concentré sur « j'ai cette idée, je suis convaincu que c'est la bonne et les gens vont le comprendre », mais plutôt de se dire « j'ai cette idée, je pense que c'est la bonne », qu'est-ce qui pourrait ne pas être compris ? Comment est-ce que je peux y répondre ? Et comment est-ce que je peux expliquer que cette idée, c'est celle qui me semble être la bonne en tout cas ?
Et puis lorsque tu vas générer des résultats chiffrés sur, je sais pas, un gain de vélocité ou moins d'échanges pour plus d'efficacité, enfin voilà, ce genre d'indicateurs, tu pourras les partager à l'équipe pour qu'ils comprennent aussi que ce que tu as voulu mettre en place prospère.
Exactement. Alors ça, c'est toujours le problème, c'est que généralement ça, tu l'as a posteriori. Donc il faut gagner un petit peu de temps jusqu'au moment où tu peux mettre en avant les chiffres. Mais c'est vrai que c'est la meilleure chose et c'est peut-être un de mes conseils parce que j'aime bien avoir ce genre d'infos, c'est avoir un maximum de données. Là, ça a été un peu mon combat sur le premier trimestre et c'est encore le cas sur d'autres outils, c'est on a des outils, on les maîtrise, on sait les utiliser, mais on ne sait pas dire qu'on sait les utiliser. Et donc, c'est hyper important d'être capable d'avoir des chiffres et des indicateurs qui nous permettent de prouver qu'effectivement, on utilise bien ou au contraire, il y a des points sur lesquels on peut faire mieux.
Ouais, de traquer l'utilisation.
Ouais, c'est ça.
Bonne ou mauvaise, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, ouais, bah c'est hyper intéressant. Je te propose de passer à la partie retour d'expérience.
Ouais.
Et c'est intéressant, là, tu en parlais. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu aurais fait différemment dans ton précédent rôle ?
Je pense que la chose que j'ai le plus compris, en changeant de poste, c'est les enjeux des autres pôles. Quand on est CAM, en fait, je pense que c'est un défaut que j'ai eu et je pense ne pas être le seul et je pense que c'est quelque chose qui peut se retrouver chez les CAM. On a un peu tendance à penser que nos clients, notre portefeuille, c'est les plus importants. C'est eux qui ont raison, c'est eux qu'il faut écouter, c'est pour eux qu'il faut qu'on fasse évoluer les choses. Alors qu'en réalité, effectivement, c'est des clients qui sont importants, c'est des clients qui sont stratégiques et c'est pour ça qu'ils ont droit à un suivi et à un contact tout particulier, mais c'est pas les seuls. C'est pas les seuls et c'est pas les seuls enjeux de la boîte. Et donc ça, c'est quelque chose que peut-être je vois mieux maintenant que je suis à ce nouveau poste où justement j'ai l'ensemble de la communauté sous les yeux et donc on se rend compte qu'effectivement, les comptes clés, c'est un sujet majeur, mais c'est pas le seul. Et je pense que peut-être qu'avec un peu plus de recul sur ce point-là, j'aurais pu être un peu plus efficace dans mes requêtes, dans mes échanges et dans les process qu'on a mis en place. En tout cas, dans la compréhension de ce qui pouvait marcher ou pas marcher pour moi et pour mes clients.
Ouais, c'est intéressant cette mise en perspective. Et j'avais d'ailleurs eu le débat il n'y a pas très longtemps avec la partie AM versus produit. Enfin, quand je dis versus, tu sais, c'est que voilà, on connaît son portefeuille, on a envie de le chouchouter, et dès qu'il nous demande quelque chose, ben, on veut faire les modifications pour lui plaire, pour le satisfaire. Et en fait, le produit, ou là en l'occurrence, comme tu nous dis, le pôle Ops, va avoir beaucoup plus cette vue d'ensemble. Donc, bah ouais, mais désolé, c'est pas prioritaire parce qu'il
C'est
y a
ça.
d'autres sujets, quoi.
Exactement.
La question découle de ce qu'on vient de dire, mais aussi quelles sont les nouvelles qualités dont tu dois aujourd'hui faire preuve?
Je dirais que y a deux points principaux majeurs sur mon changement de poste qui sont assez clés en ce moment et sur lesquels je bosse. Bah, il y a déjà ce qui découle de ce que je disais juste avant, la vision à 360. J'avais une vision relativement large de brigade et de ce que je faisais quand j'étais sur le poste de CAM. Et là, en fait, je me suis rendu compte que j'avais peut-être quelques œillères qu'il a fallu enlever pour mieux comprendre vraiment l'ensemble de l'environnement, l'ensemble des besoins et des sujets qui peuvent toucher notre communauté. Donc, il faut vraiment être capable de se mettre à jour de tous les sujets et d'être capable de répondre aux questions et capable de rapporter aussi sur l'ensemble des sujets d'un pôle. Et ça, c'est un gros enjeu. Et du coup, je me suis pas mal amélioré sur la prise de notes et l'analyse un petit peu plus posée des sujets. Parce qu'en fait, si je prends pas de notes, y a des points que j'oublie. Et même intellectuellement, en fait, tu te mets un peu la pression parce que tu dis qu'il faut pas que tu oublies, qu'il faut pas que tu oublies. Alors que si tu notes, en fait, tu n'oublieras pas parce que c'est écrit. Donc, c'est un premier point. Et puis, le deuxième sujet, c'est le management. Parce que du coup, je suis passé d'un pôle où je gérais une équipe de trois personnes, trois CAM, sur un métier que je maîtrisais bien, sur un sujet que je maîtrisais bien et sur un pôle que j'ai en partie construit. Donc c'était peut-être un peu plus simple qu'aujourd'hui où j'ai une équipe d'une douzaine de personnes avec des métiers que je maîtrise un peu moins. C'est aussi important de s'en rendre compte. Et donc, il faut être capable de se mettre au niveau de son équipe, de se mettre au niveau de leurs connaissances pour pouvoir répondre à leurs questions. Et ça, c'est un bon challenge.
Tu m'étonnes. Et si je suis sûre que ça le fait, que ça continue et ça va le faire, si tu devais imager ce changement, ce serait quoi? Quelle métaphore est-ce que tu vas nous inventer, Maxime?
C'est pas simple comme question. Je dirais peut-être que ce changement, c'est. Tu vois, bah, tiens, une image qui me vient. J'ai récemment craqué et installé un petit truc prêt à pousser dans ma cuisine. Je sais pas si tu connais.
Bien sûr, c'est les petites plantes qui poussent sous la lumière là.
Exactement, c'est ça. Et ben, je crois que ce changement, c'est un peu à l'image de ça. C'est-à-dire que mon parcours chez Brigade a poussé et a été poussé aussi, un peu comme de le prêt-à-pousser avec ses LED, fait pousser un peu plus vite les plantes, par l'écosystème startup qui fait qu'on a la capacité, la possibilité d'évoluer rapidement. C'est pas un don en soi, c'est pas parce qu'on bosse en startup qu'on va évoluer vite. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se perdre un petit peu là-dedans et penser que bah, parce que tu as rejoint une boîte tech, une start-up, tu vas rapidement évoluer sur des postes de management. C'est pas forcément le cas, mais par contre, c'est possible, à la condition de mettre ce qu'il faut pour y arriver. Et ce changement, c'est un peu ça. J'étais en train de construire mon chemin, mon parcours, prendre mon expérience, et tu as cet accélérateur de l'environnement start-up qui te permet d'avoir assez. Rapidement dans une carrière, accès à des rôles un peu stratégiques et challengeants. Et c'est comme ça que je verrai un petit peu ce changement. Et maintenant, il faut faire en sorte que ça continue de pousser.
Oui, t'as bien pris racine depuis ces dernières années, et puis là, tu bourgeonnes,
Exactement, je bourgeonne.
quoi. Une idée toute faite du métier de CAM que tu souhaites déconstruire. Ça, c'est dur.
Ouais, ça c'est dur aussi. Non, sur la fin, il n'y a que les questions dures. Moi, je mettrais peut-être un point qui me paraît essentiel, qui est propre au métier de CAM, encore une fois en startup. parce que c'est un, du coup un écosystème que je connais assez bien, mais qui, je pense, peut marcher avec beaucoup de boîtes, c'est que on peut avoir facilement ce complexe d'être le petit face au gros. Parce que quand on est CAM, forcément, on s'adresse à un très gros client, à un client hyper challengeant, hyper important. Les enjeux ne sont pas les mêmes quand on parle à un compte clé que quand on parle à un client plus traditionnel, forcément, parce que derrière, le potentiel est énorme. Donc, on peut avoir tendance à facilement se mettre dans la position du petit face au gros. Je pense que c'est hyper important de réussir à prendre du recul là-dessus et d'être capable de se mettre au niveau de son interlocuteur dans, dans les échanges, dans la prise d'initiative, dans la proposition. Je crois que c'est ce qui a fait aussi un peu la différence pour Brigade dans notre capacité à travailler avec des grands groupes, c'est cette capacité à prendre des initiatives et à montrer à nos interlocuteurs que certes, aujourd'hui, on est, enfin, à l'époque, en tout cas, on était des interlocuteurs peut-être un peu plus petits que ceux qu'ils avaient l'habitude de côtoyer, mais pour autant, on est capable de se comporter comme des grands, comme des adultes, et on peut proposer des choses qui vont les faire grandir, et on a des choses à leur apporter. Et c'est ça le plus important, et ça permet de, quand c'est nécessaire, de pouvoir et de savoir dire non à son client, et d'être dans une position où on peut être dans l'échange et dans le partenariat et pas seulement dans la négociation du petit face au gros.
Ouais, c'est une idée de posture et de conditionnement mental.
Exactement.
Avant tout.
Exactement.
Et quelle est la suite logique selon toi alors d'un CAM dans une startup ? Parce que tu disais, voilà, on peut évoluer, mais pas forcément si vite qu'on le pense, pas obligatoirement sur un poste de management. Tu dirais que c'est quoi le parcours un peu standard d'un key account ?
Bah, pour moi, le poste de CAM, en fait, il ouvre plein de portes. Alors, c'est un poste qui est assez récent, et je trouve que ton podcast fait bien le taf là-dessus. C'est des métiers et des rôles qui sont assez nouveaux, qu'on maîtrise peu, parce que c'est des métiers qui existaient surtout dans l'agroalimentaire, enfin voilà, des secteurs qui ont l'habitude d'avoir ça, mais assez peu dans les univers tech ou dans d'autres univers qu'on peut avoir au fur et à mesure, donc qui se développent. Aujourd'hui, je pense que les qualités qu'on met en avant en tant que CAM permettent de pouvoir se déplacer sur pas mal de métiers différents, que ce soit, comme moi je l'ai fait, sur un rôle très, on va dire, stratégique, opérationnel, parce qu'il y a cette vision à 360, cette maîtrise des process et des outils qui permet de facilement montrer qu'on est capable de le faire. Il peut y avoir des rôles de accompagnement, management, encadrement d'équipe commerciale, parce que être capable de négocier avec des grands groupes, c'est faire preuve d'une compétence et d'une qualité commerciale forte. Donc je pense qu'un CAM, de manière générale, aujourd'hui, doit avoir ces atouts-là, et s'il les a, peut prétendre à des postes de management sur des équipes commerciales. Donc voilà, il y a pas mal d'options. Et puis il y a toujours aussi une autre voie, et je pense que c'est important de le mettre en avant aussi, c'est que évoluer, ça veut pas forcément dire devenir manager. On peut évoluer tout en devenant spécialiste sur son domaine. Et je trouve que c'est une voie qui est aussi hyper intéressante de pouvoir dire, voilà, moi j'ai cette expérience-là sur le secteur sur le segment des comptes clés, et à travers cette expérience-là, ce rôle un petit peu plus senior permet de d'avoir des clients un peu plus gros, mais aussi et surtout de partager de la connaissance et de faire monter en compétence les autres équipes.
Et avant d'aller vers le chemin des operations, est-ce que toi tu te destinais un petit peu à ça, tu avais une appétence pour aller dans cette direction? Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui voudrait aussi aller suivre cette voie?
Alors, j'avais pas forcément ce poste-là en tête particulièrement, j'ai pas fait de plan en fait sur ce que j'allais faire après. Par contre, ce qui était sûr, c'est que j'avais envie d'avoir de l'impact et d'être utile à un rôle où je pensais pouvoir l'être, ça c'est la première chose, mais aussi et surtout, j'avais envie d'apprendre. Donc pour apprendre, il faut parfois se mettre un petit peu en danger et changer un peu de cap et aller vers d'autres rôles. Donc ça a été l'opportunité qu'on m'a proposée qui s'est présentée, et donc c'est parfait. Peut-être mon conseil par rapport à ça, c'est vraiment de réfléchir à ce qu'on veut. qu'est-ce que j'ai envie pour la suite? Est-ce que j'ai envie d'apprendre? Est-ce que j'ai envie de me frotter au management? Est-ce que j'ai envie de me frotter à des plus grands comptes? Est-ce que j'ai envie de changer de voie? Parce que c'est possible, il y a aussi des gens qui partent. J'imagine que tu dois en avoir aussi parmi toutes les personnes qui sont passées par le podcast, qui ont échangé, qui ont évolué plus haut sur des postes en grosse, en product management. Enfin, voilà, il y a plein d'options possibles. Je pense que la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux au fond de moi? Pas qu'est-ce qui est logique ou qu'est-ce qui est bien, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire?
Bon, effectivement, s'écouter, c'est le principal. Et puis apprendre, ça veut dire tellement de choses que, en effet, on a plein de possibilités et c'est ça qui est beau. Écoute, je te propose de conclure avec ma question rituelle que tu connais déjà, qui est quel titre de livre, de film ou encore de chanson décrirait le mieux ton nouveau quotidien et pourquoi ?
Écoute, en ce moment, je suis sur un nouveau livre que je, enfin, un nouveau livre. C'est pas un nouveau livre, mais un livre que je commence. C'est Let My People Go Surfing, qui est le livre écrit par le fondateur de Patagonia, qui est hyper intéressant sur l'entrepreneuriat, sur l'écologie, sur le monde dans lequel on est, on interagit. Et je trouve que c'est un truc qui est assez en phase avec ma vision des choses en ce moment. Donc voilà, je dirais plutôt ce bouquin-là.
Et ce qui est intéressant, je pense que c'est ce bouquin, il date pas d'hier non plus. Et pourtant, je pense que tout ce qu'il dit sur l'écologie, ça doit bien résonner encore plus à l'heure actuelle.
C'est clair, c'est à la fois surprenant et un peu flippant.
Tu me le prêteras quand tu auras fini.
Avec plaisir.
Trop bien. Bon, bah merci Maxime, je pense qu'on a fait un bon tour. Je ne sais pas si toi, tu avais des choses à rajouter.
Non, bah merci à toi, c'est top. Continue comme ça, c'est hyper intéressant et c'est cool. Moi, je continue d'écouter tes podcasts aussi. Donc, un grand plaisir d'y participer et puis à l'année prochaine, du coup.
Yes, avec grand plaisir. Tu as Amcamgram Certified. Tu sais, je vais te remettre ton pin.
Trop bien, je suis très fier.
Bon, et bah à bientôt, salut.
Salut.